Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis. Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre.
Bon mardi tout le monde. Alors on est très heureux de revenir pour une nouvelle saison d'À nous la terre. Salut TP. Salut Michael ici également en studio. Cette semaine à l'émission, on va parler de l'habitude des ruines, la muséification culturelle et la cabane comme retour aux sources avec Marie-Hélène Voyer, professeure de littérature et auteure. Vous écoutez À nous la terre. L'extrait suivant, tiré de l'introduction du livre L'habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer, offre un aperçu des questionnements et des processus qui habitent l'ouvrage et qui nous amène à poser un regard attentif sur la question du patrimoine et donc de notre héritage commun. Quelles sont les causes de cette banalisation galopante de nos villes et de cette amnésie abrasive qui les ronge? Qui orchestre ces démolitions qui les laisse anémiques, presque exsangues de toute trace du passé? Il y a bien sûr les lois faiblardes, l'absence de cohérence et de vision à long terme de nos politiques publiques et, dans une plus large mesure, l'absence de philosophie du territoire au sein de nos gouvernements successifs. Il y a évidemment les moyens faméliques et le manque de ressources des villes. Il y a l'ignorance des élus. Il y a cette logique de rentabilisation de l'espace qui prévaut partout. Il y a la toute-puissance et l'impunité des promoteurs. Le désarroi des petits propriétaires laissés à eux-mêmes, l'improvisation, le laisser-aller, le colmatage, la logique commode du mieux que rien. Il faut surtout interroger notre manière d'habiter, de nous projeter, de vivre ensemble dans cet espace qui nous échappe de tous bords. À la lecture de l'ouvrage de Marie-Hélène, nous partageons un constat similaire. Le monde capitaliste du tout à l'économie dont nous héritons tombe en ruine et reproduit inévitablement la ruine, tant dans ses productions culturelles que dans ses formes de vie. C'est d'un déracinement généralisé et d'un isolement profond dont nous héritons. Face à un tel constat, nous interrogeons aujourd'hui avec Marie-Hélène Voyer nos manières d'entrer en relation avec ce patrimoine qui nous est légué et plus largement sur nos manières d'habiter et d'expérimenter ensemble un territoire commun.
Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir accepté de joindre à nous aujourd'hui pour la reprise de, pour le début de la saison, en fait, d'hiver d'À nous la terre.
Merci à vous deux pour cette belle invitation.
Marie-Hélène Voyer, tu es titulaire d'un doctorat en études littéraires à l'Université Laval et professeure de littérature au cégep de Rimouski. Tu as publié de nombreux ouvrages, notamment un recueil de poésie intitulé Expo Habitat à la Peuplade en 2018. Terrain vague, un ouvrage remanié à partir de ta thèse qui est paru en 2019 aux éditions Nota Bene et ton livre dont il va être question aujourd'hui, L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec, qui a été publié en 2021 chez Lux Éditeur. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
C'est une joie.
Donc, peut-être on va commencer avec la première question. Bon, on comprend dans le livre que Lux Éditeur t'a offert une carte blanche pour écrire cet essai-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ce qui a été ta motivation pour choisir ce thème puis la démarche d'écriture un petit peu?
Bien oui, tout à fait. En fait, c'est Marc Fortier qui m'est arrivé comme ça un jour de novembre, un peu avant la pandémie, et puis on avait plusieurs amis en commun. Mais il m'a écrit pour me dire écoute, je regarde aller, là, il voyait mes nombreux statuts Facebook pas content par rapport à notre patrimoine, au rapport qu'on entretient aussi avec ce qui pourrait être notre conscience historique collective, là, disons ça comme ça. Puis il m'a dit, écris-nous donc quelque chose, écris-nous donc un essai. Mais j'ai dit, mais Marc, je suis pas essayiste, je suis poète. Il dit, oui, mais c'est ça, un essai là, de littéraire, de poète. Et puis, je me suis donné quelques jours pour y réfléchir, mais je me suis vite rendu compte que j'étais déjà en chantier. Alors, je me suis dit que j'allais faire un livre d'images, un peu à la manière de ces enfants à qui l'on offre des livres à colorier, mais je me suis dit, quelles sont les images, les emblèmes de ce que j'appelle notre rapport malaisé au territoire, à l'espace qu'on habite. Alors, j'ai bâti ça par court petit chapitre qui, à chaque fois, est l'incarnation d'une manifestation d'un malaise ou d'étrangeté collective qu'on entretient par rapport à notre territoire, en fait. Quelles sont nos obsessions, nos fantasmes, les images qui nous habitent aussi.
On comprend aussi que dans ton ouvrage, que la question de l'habiter occupe une place importante dans tes réflexions. Expo Habitat, ton recueil de poésie paru en 2018 à la Peuplade, abordait également ce thème. Dans l'habitude des ruines, est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte le destin de notre habité historique qui est en jeu?
Oui, bien sûr, mais peut-être davantage le destin de notre habité collectif. En tout cas, si j'essaie de hiérarchiser, ce qui m'inquiète davantage, là, mm-hmm. Mais oui, d'abord, ben, tu sais, la question des lieux, pour moi, est une obsession qui n'est pas neuve, qui n'est pas nouvelle. Il y a déjà plusieurs années de ça, j'ai découvert la pensée de l'anthropologue Marc Auger au sujet des non-lieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion qui résumait grossièrement là, l'espèce de démultiplication de ces espaces purement fonctionnels dans nos villes, purement interchangeables, où on n'est pas destiné, on n'est pas considéré comme des habitants, mais davantage comme des usagers anonymes. Et ça m'a beaucoup habité, cette réflexion-là. Je me suis coltaillée avec cette notion depuis ma maîtrise, d'ailleurs, en littérature, malgré tout. Là. Donc, me demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos villes et comment ça contamine nos intimités et nos collectivités aussi, là, cette manière d'entrevoir l'espace comme purement fonctionnel, interchangeable et évidé de la dimension historique, relationnelle, esthétique, souvent aussi.
On a senti un peu que dans ton livre, on est un peu à mi-chemin entre un constat pessimiste, là, voici où notre présent nous mène, ou même voici ce que notre présent fait à notre passé, puis un peu de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'interpellation politique, comme on le lisait un peu dans l'extrait d'introduction au début de l'émission, peut-être une remise en question des priorités, en fait, des gouvernants, un espoir de voir le changement dans le traitement du patrimoine bâti. Comment tu vois ça, ces aspects-là?
Ben, en fait, oui, je dis souvent que je suis une désespérée espérante, puis il n'y a peut-être pas d'autre manière d'écrire non plus, c'est-à-dire que si on n'espère plus rien, on se roule en boule dans un coin, puis on attend, mais c'est certain que je suis de plus en plus persuadée que ça va passer par la base, par les citoyens eux-mêmes qui doivent s'unir, qui doivent lutter. Vous l'avez remarqué, je crois, dans mon essai, hein, en filigrane, il y a des fantasmes, des espoirs de ZAD, là, ces zones à défendre. Et je me dis, mais quand est-ce que nous, ici au Québec, on va se prendre en main collectivement et protéger ce qui mérite d'être protégé, ces enclaves où la vie bonne pourrait naître et s'épanouir, là. Je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé si on avait défendu Forillon, des 325 familles qui ont été évincées, si on les avait protégées, si on les avait appuyées, si collectivement on s'était senti concerné. Pareil pour les 11 villages rasés pour l'aéroport de Mirabel. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, jusqu'à la plus récente serre, histoire de cette serre à Québec dont on reparlera peut-être.
Oui, on aura effectivement l'occasion de reparler aussi de la ZAD et de ses perspectives relationnelles renouvelées et de effectivement des potentiels d'habiter collectif qui s'ouvrent à nous avec de telles perspectives. Puis la question justement de l'interpellation politique nous a quand même beaucoup intéressé dans ton livre. Tu y fais un constat assez frappant. En fond, il y a presque plus personne au Québec qui sait construire, entretenir, restaurer, réparer les bâtiments patrimoniaux. Leur nombre est dans tous les cas beaucoup plus petit que celui de la quantité de bâtiments qu'il y a à entretenir, dont nous héritons. Comment vois-tu une telle situation, en fait?
Ah, je suis catastrophée et très inquiète par tout ça. J'entendais Yves Lacourcière, un ingénieur retraité, qui parlait au 15-18 il y a quelques mois de ça, et qui a publié notamment un livre intitulé « Accusé de non-assistance à patrimoine en danger », mais il raconte qu'on perd en moyenne quelque chose de l'ordre de 4000 bâtiments patrimoniaux par année au Québec, et que depuis 1970, c'est près de 40 % de ces bâtiments qui ont disparu. Donc, mais aujourd'hui, si on est chanceux, il reste peut-être quelque chose comme 500 travailleurs des métiers traditionnels de la construction. C'est absolument affolant, sachant que on a quand même encore un parc de peut-être 350 000 bâtiments historiques ou patrimoniaux à entretenir. Il y a un peu d'espoir. Là. On voit qu'il y a une cohorte qui vient de naître au Cégep du Vieux-Montréal, un AEC en métier d'art du patrimoine bâti. Et depuis que j'ai publié le livre « L'habitude des ruines », les gens m'écrivent beaucoup. J'ai notamment eu la chance de recevoir un message d'un étudiant de cette première cohorte de l'AEC en patrimoine bâti, en métier d'art, là, mais malgré tout, il raconte à quel point, malgré qu'il y a la fibre amoureuse là, du patrimoine bâti et la volonté de se former depuis plusieurs années, souvent les clients lui donnent des contrats pour bâtir plutôt ce qu'il appelle des maisons monstrueuses, hein, des néo-manoirs. Finalement, c'est ça, c'est... On peut avoir la passion et la fibre, mais il faut aussi pouvoir l'exploiter à son plein potentiel.
Puis cette situation-là, on le sait, ça découle quand même des décisions qui ont été prises par le passé, c'est-à-dire une certaine uniformisation des normes du bâti, l'arrimage des programmes d'apprentissage des métiers de la construction sur... ces normes-là qui sont basées sur l'industrie des matériaux, l'industrie du bois, entre autres, qui sont des normes qui sont assez uniformes. Puis ça a laissé de côté, en fait, tout un tas de méthodes qui sont plus associées à des bâtiments vernaculaires ou qui sont adaptés aux réalités du territoire et de ses mémoires. Donc, cette question-là de l'interpellation est un peu pas évidente à poser parce qu'on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire autrement que de se dire on va apprendre de nous-mêmes à réparer des bâtiments.
Oui, c'est déjà un premier mouvement extrêmement, extrêmement louable, mais je pense aussi qu'il faut interpeller nos élus, qu'il faut sensibiliser les élus, qu'il faut former nos élus. Il y a une nonchalance, il y a une logique du haussement d'épaule qui dure depuis trop longtemps. Hein. C'est jamais de la faute à personne, puis c'est un peu de la faute à tout le monde à les entendre, là. Alors que c'est eux qui ont la responsabilité première de protéger notre mémoire commune. Et aussi la mémoire de ces savoir-faire, là, une espèce de fierté ou d'amour de ces savoir-faire, de ces constructions historiques.
Mm-hmm. Et on peut dire que la rationalisation et l'aplanissement, finalement, des différentes formes d'habiter est assez avancé. Là. C'est vraiment le constat à laquelle on arrive. Le progrès, puis ça, je pense, c'est vraiment intéressant parce que tu l'évoques à plusieurs reprises dans ton livre, la fameuse notion de progrès. Semble assez déterminé dans son élan d'effacement et de bétonisation ou, disons, d'uniformisation. Ce sont effectivement les maisons uniformisées, les tours à condos qui poussent partout, et ce, depuis quand même des décennies. À la lecture de ton livre, on en vient même à se demander si le peuple du patrimoine dont il est question existe toujours. Est-ce qu'on en a des pistes?
Est-ce qu'il existe toujours? Pas assurément, assurément qu'il existe toujours. Et c'est une réflexion qui est toujours en chantier pour moi, d'ailleurs. Puis je me demande parfois aussi, il faut avoir les moyens puis le luxe d'avoir et le temps de s'ouvrir les yeux sur ces problèmes. Hein. Quand on peine à y arriver financièrement, quand on doit juste au quotidien déjà essayer de se battre pour un boulot, pour manger, pour chauffer son logement. Peut-être que les questions esthétiques là, d'uniformité ou d'uniformisation ou d'indifférenciation du bâti nous passent au-dessus de la tête, avec raison. Hein. Donc, des fois, je me demande justement si nos contemporains, en majorité, sont aliénés par la vie qu'ils mènent déjà. Et c'est normal qu'à un moment donné, dans leur priorité, c'est peut-être pas le patrimoine bâti et cette espèce de lutte pour le collectif qui l'emporte, là, quand déjà il faut essayer de nourrir une famille. Enfin.
Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi un désir de ce que, du point de vue du patrimoine bâti, on pourrait qualifier comme étant une aberration esthétique? En fait, je me demande s'il y a encore un désir de ce qu'on se représente comme étant la forme d'habiter authentique qu'on associe au territoire ici, ou si, en fait, les formes de désir actuelles vont pas plutôt vers ce qui est effectivement dominant. Est-ce que c'est par manque de choix? Est-ce que c'est à cause du profit des promoteurs? Ou est-ce que c'est pas aussi à cause que ce modèle-là, en fait, il convient très bien à ce peuple qui est peut-être plus le même que celui qui a construit puis qui a été capable de réparer le patrimoine dont il est question?
C'est des superbes questions auxquelles je ne sais pas si je vais arriver à trouver une réponse satisfaisante, mais je pense que pour le moment, c'est vrai que les promoteurs... contrôle dans une large mesure, en fait, là, les promoteurs contrôlent les images de nous-mêmes, ou essaient de nous vendre une image de nous-mêmes qui est peut-être distordue. On nous vend des images empruntées. J'appelle souvent ça des images empruntées. On nous fait rêver d'ailleurs. On nous fait rêver de nous sentir à Montréal comme à Manhattan, de nous sentir à Varadero quand on est à Trois-Rivières. Quand on regarde les différents noms même de leurs projets résidentiels, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'orgueil, du gonflé, de la prétention un peu creuse. Là, on donne des noms d'empereurs à des projets résidentiels où on donne des noms très patrimoniaux, hein, donc domaine des bâtisseurs, des pionniers, mais alors que ce n'est que de la fausse pierre et des fausses colonnes grecques.
Oui, c'est vraiment intéressant, et t'en parles quand même dans ton livre, effectivement, de ces noms-là qui sont donnés au nouveau développement, et il y a même une prétention là, de se rapprocher, par exemple, de la nature ou d'évoquer, par exemple, un ruisseau qui aurait été remblayé. Et donc, ce dont on hérite peut-être, c'est effectivement aujourd'hui notre patrimoine contemporain, si on peut dire, c'est peut-être l'image, en fait, d'une industrie ou d'une omniprésence de l'industrie, en fait, dans les logiques constructives. Une industrie qui est mondialisée, qui repose beaucoup sur le pétrole. On peut penser notamment à tous les isolants et ces éléments-là qui viennent s'ajouter comme des couches là, sur la pierre et le bois qui composaient historiquement notre bâti. Et donc, peut-être que... C'est effectivement peut-être la perspective qu'offre l'AZAD, puis on pourrait y revenir aussi un peu après la pause, mais peut-être que justement de revenir à une matérialité qui est celle du lieu nous permettrait aussi de nous détacher de ce réseau de relations-là qui est très distant, homogène, productiviste.
Tout à fait. Et se sortir de ce cycle du neuf qui, finalement, n'est qu'une pré-ruine. J'ai l'impression qu'on est dans j'appelle ça le symptôme du nouveau monde, là, mais on bâtit du neuf qui sera de la ruine dans 15 ans. Une espèce d'accélération des cycles de ruines dont il faut s'extirper au plus vite pour nouer des rapports aux autres et aux lieux plus durables.
Vraiment, et c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on va pouvoir un peu élaborer ces questions-là après la pause. Donc, on va écouter. On trouvait ça intéressant de ramener justement cet imaginaire-là dans la musique également. Donc, Cédric Dain-Lavoie, Tenant mon frère, tiré de l'album Archive, qui se veut en fait une recomposition de musique traditionnelle québécoise. Donc, on est de retour avec vous dans 3 minutes. Et on est de retour avec Marie-Hélène Voyer pour discuter du patrimoine bâti et de la question de la mémoire. Donc, on a parlé effectivement de notre héritage et de la difficulté finalement que nous avons à entrer en relation avec cet héritage-là bâti. La reproduction incessante d'une ruine en fait qui tombe de plus en plus vite dans son état de ruine, si on veut. Et on aimerait maintenant revenir sur le rapport justement entre le patrimoine et, si on peut dire, le peuple auquel il serait associé. Il y a des passages très intéressants dans ton livre sur le vieux Québec, notamment sur la question de la place royale, qui est un endroit assez symbolique dans la question patrimoniale au Québec. Cet endroit, effectivement, semble ancré dans notre conception collective de ce qu'est le patrimoine bâti québécois. Mais pourrais-tu nous parler un peu de ce qui rend ces lieux intéressants à tes yeux, ou peut-être de ce qui cloche avec ces lieux?
Oui, hein, je sais pas. Vous aurez compris à la lecture de mon essai que c'est pas mon lieu préféré, disons. Je peux pas m'empêcher à chaque fois que je circule dans les alentours de Place Royale d'imaginer cet espace comme étant embaumé, taxidermé. Il y a quelque chose d'un peu faux dans cette reconstruction de ce qu'on s'imagine être notre passé, ou ce lissage, ce gommage. C'est-à-dire que dans les années 60-70, là, quand il y a eu tout ce projet de revitalisation puis de mise en scène, appelons ça comme ça, là, de notre histoire dans ce quartier-là de la ville, on a beaucoup axé sur notre héritage français, sur le régime français, mais en gommant nos héritages britanniques là, des deux siècles suivants, là, disons, du 19e siècle. On ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il y a quelque chose de faux et d'inhabité et d'inhabitable là-dedans. Où peut-on s'épanouir? Où est-ce qu'il y a une vie de quartier possible? Là? C'est ça semble un décor pour touristes. Là. C'est pas là qu'on voudrait élever une famille, disons.
Vraiment,
vas-y, TP, excuse-moi. Et c'est effectivement une reconstruction assez récente, en fait, qui a aucun lien avec une quelconque fonctionnalité en dehors de celle de valoriser l'aspect touristique de la ville de Québec, en fait.
Tout à fait. Puis je parlais tout à l'heure de ma fascination pour les non-lieux. Le château Frontenac en est un extraordinaire non-lieu. Là. Donc, c'est la fierté de carte postale par excellence, mais c'est un hôtel. C'est pas une place où on peut socialiser, se connaître, se rencontrer, créer du lien. C'est pas un lieu de mixité sociale, culturelle, générationnelle. C'est un lieu destiné, un lieu indéterminé, indifférent, destiné à des gens qui sont pas là pour rester. C'est assez particulier que la plus grande fierté soit pourtant ce qu'on appelle un non-lieu.
Et c'est drôle parce qu'effectivement, on est... Donc, cette image-là qu'on a du patrimoine ou de ces icônes, et comme tu parles effectivement du Château Frontenac et du Vieux-Québec, sont en fait des lieux avec lesquels on entretient un rapport qui est celui du musée, en fait. Et il manque pas grand-chose pour que, à la place du Ville, on ajoute un tourniquet, en fait, en dessous de la Porte Saint-Jean, puis ça nous prend un billet pour rentrer dans ce secteur-là. Puis, je veux dire, la bombe a travaillé beaucoup en ce sens-là. On a beaucoup misé sur l'industrie touristique, en fait. Puis on a vu, en fait, à quel point c'était faible et fragile avec, notamment, l'arrivée du virus, de la pandémie. Effectivement, ce lieu n'est pas du tout habité. Et quand on y va, on réalise qu'il n'y a non plus aucun service de proximité. Donc, c'est vraiment des endroits destinés aux touristes qui sont pourtant des lieux absolument qualitatifs avec des qualités urbaines exceptionnelles. Puis on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, à travers tout ça, des bâtiments qui gardent justement les traces authentiques d'une certaine mémoire, là. C'est vrai que la Place Royale est problématique, mais si on revient un peu plus haut dans Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Québec, ces traces-là sont toujours là. Donc, c'est assez troublant, en fait, de voir comment on traite ou on entretient un rapport avec cet héritage-là qui est exceptionnel.
Oui, et puis il faut revenir hein, sur la démolition aussi du cube Rubik blanc, là, l'œuvre Dialogue avec l'histoire de Jean-Pierre Reynaud, sur la place de Paris, mais cette œuvre-là était un pied de nez extrêmement intéressant, hein, où on remettait en question justement ce rapport très édulcoré, très naïf, très nostalgifiant que l'on entretient au passé. Alors, c'est extrêmement puissant qu'il se tienne là au milieu de tout ce décor pour touristes jusqu'à sa démolition, là, sous prétexte que, bon, il y avait des infiltrations d'eau et qu'il était abîmé. Là.
Pourrais-tu nous décrire un peu pour les auditeurs et auditrices l'œuvre?
Oui, oui, c'est ça. En tout cas, nous, on était nombreux à l'appeler le cube Rubik. Là, donc, c'était une œuvre formée de cubes blancs superposés. Et qui a été démoli en grande pompe hein, par le maire Labaume avec les caméras. Là. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre du rituel sacrificiel. Là. Ça a été, si je ne me trompe pas, hein, excusez-moi, ça fait quelques années que j'habite plus à Québec, mais je crois que finalement, il y a quand même l'œuvre de Reynaud a été reconstruite, ou en tout cas pas très loin du... je ne sais pas si c'est pas très loin du Grand Théâtre de Québec, quelque chose
c'est
comme ça.
Ouais. C'est assez ironique parce que puis tu le soulèves dans ton livre, c'est que l'œuvre s'intitulait Dialogue avec le passé.
Oui. C'est bien ça. Et donc, Dialogue avec l'histoire.
Avec l'histoire. Et donc, on réalise que finalement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion possible, en fait.
Non, non, tout à fait. Et puis, tu sais, quand on parle de patrimoine, il ne faut pas imaginer les amants du patrimoine comme des psychorigides qui veulent toucher à rien. Je pense que la ville doit contenir les strates de temps et d'histoire qui l'ont construite, là. Donc, c'était extraordinaire, cette œuvre-là, à cet emplacement-là. C'était d'une grande force.
Puis, par ailleurs, ben, la Ville de Québec, on le sait, sous le maire Labombe, est passé maître dans la destruction des bâtiments anciens, là. Plusieurs églises ont été détruites dans une certaine opposition, en fait, de la part de à la fois des gens qui veulent préserver le patrimoine, mais aussi des communautés qui vivent dans les quartiers où ça se passait, notamment justement sur la Grande Allée, notamment sur la Première Avenue dans Limoilou. Il y a quelques semaines, comme on le disait tantôt, il y a la grande serre du zoo de Charlebourg qui a été détruite. Ça a défrayé les manchettes. Puis le maire s'est contenté de dire que ça coûterait trop cher de continuer à l'entretenir, alors que des projets étaient déposés pour faire de cet endroit-là une zone d'expérimentation avec différentes formes de vivants, puisque c'était une des plus grandes serres en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas.
Oui, une serre quand même qui a été inaugurée quoi, en 2002, au coût de 14 millions de dollars, abandonnée depuis 2006. Et ça fait de Québec, hein, de manière peu reluisante, là, l'une des deux seules grandes villes du Canada à ne pas avoir de serre d'hiver, de jardin intérieur. Là, je pense que c'est Halifax, l'autre ville. Là. C'est quelque chose d'assez fou quand on y pense. Donc, on nous dit qu'on n'a pas les moyens d'en prendre soin, mais par contre, on a les moyens de démolir une serre qui nous a coûté 14 millions. Ça, il n'y a pas de problème. C'est hallucinant.
Vraiment, et que la réponse, effectivement, qui justifie cette démolition-là par le maire soit celle, en fait, soit que finalement les citoyens n'en auraient pas pour leur argent. Il y a quelque chose d'absolument aberrant. Puis la question qu'on peut poser, effectivement, c'est au-delà de l'argent, que perd-on?
Ben oui. En avoir pour son argent, j'aurais aimé qu'il nous définisse ce qu'il entend par là. Hein. C'est pas, on n'est pas là, dans une foire agricole avec des manèges, là, puis on veut en avoir pour notre argent. Mais qu'est-ce qu'on perd? C'est ça la question finalement, parce qu'on oppose souvent, on nous renvoie toujours la question du coût, mais on ne parle jamais de la valeur, la valeur des choses. Puis, tu sais, je regardais les projets qui avaient été soumis, le développement de jardins extérieurs, d'une coopérative d'habitation aussi. Mais je pense aussi surtout au beau discours sur la santé mentale qu'on nous livre constamment. Hein, il faut donc parler, il faut jaser, puis c'est correct, mais on habite quand même une ville nordique, hein, avec pas beaucoup de lumière une grande partie de l'année. Ça, la santé mentale, le plaisir de se retrouver dans un lieu non commercial, échanger, apprendre sur la botanique, sur l'horticulture, où est-ce qu'il y aurait un dialogue entre les générations, un dialogue social aussi, un dialogue culturel, peu importe. Là. Donc, ces lieux d'animation qui ne sont pas des Christine magasins, on pourrait-tu collectivement décider qu'on a envie de ça pour nous? De ne pas toujours juste pouvoir aller se promener au centre d'achat le dimanche parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je pense qu'on mérite un horizon différent.
Vraiment, et ce qu'on a perdu avec cette serre-là, c'est une possibilité de s'autonomiser, d'entrer en relation avec d'autres espèces vivantes, de transmettre ces savoirs-là, effectivement, à des enfants. Donc, c'est pas de l'argent qu'on perd, mais c'est une possibilité, c'est des perspectives relationnelles qui disparaissent, en fait.
Oui, et puis j'adore l'hiver faire des semis avec mes enfants, mais je serais encore plus ravie de pouvoir les amener dans une serre comme ça, et puis qu'il y ait d'autres qui voient d'autres manières de faire aussi, d'autres manières de s'approprier le vivant aussi. Là.
C'est intéressant parce qu'en fait, ça trace aussi des usages possibles, pas seulement pour cette serre-là, mais pour bien d'autres bâtiments patrimoniaux, parce que cette question-là de l'argent, j'imagine que c'est celle qui revient le plus souvent. On n'a pas les moyens de s'occuper de ces bâtiments-là, puis c'est comme si c'était le seul critère qui rentre en ligne de compte. C'est la question, en fait, du coût de l'entretien, puis pas du tout aucune autre manière d'envisager que cet argent-là, en fait, pourrait valoir la peine d'être dépensé, tout simplement.
Oui, on nous dit toujours que c'est des caprices. Hein? La beauté, c'est un caprice. Et la laideur, c'est ce qui domine actuellement. Hein. Le lait et le fonctionnel, et le, c'est ça. Notre province est faite de hangars de tôle ondulée, c'est ce qu'on voit. On fait des hangars de tôle ondulée pour tout. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra patrimonial aussi. Hein, qu'est-ce qu'on en sait?
En lisant les passages sur la ville de Québec, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un événement qui m'a beaucoup marqué. Ça fait 10 ans. J'étais plus jeune à l'époque. C'était en 2012, en fait, quand le maire Labeaume a décidé de mettre fin aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste telles qu'elles se tenaient à Québec. C'est-à-dire que le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, il y avait des gens de partout au Québec qui allaient fêter sur les plaines, puis il y avait une certaine liberté de circulation dans ce secteur-là de la ville, comme on le voit pas d'habitude. Puis le maire Labeaume a profité du contexte répressif par rapport à la grève étudiante à l'époque pour complètement changer cet aspect-là de la fête de la Saint-Jean. Puis je trouve que ça aussi, c'est comme un élément du patrimoine qui est peut-être moins évident à voir parce que... Ça se passe du jour au lendemain. Bon, les gens gardent la mémoire de cet événement-là, mais c'est pas un immeuble. Donc, si tu t'en souviens pas, en fait, tu le sais pas. Mais je pense que c'est intéressant aussi de peut-être s'intéresser à ces formes-là patrimoniales immatérielles, puis qui interrogent vraiment aussi c'est quoi les bonnes formes de la culture selon une administration qui valorise beaucoup l'aspect touristique de sa ville. Donc, il y a des formes muséales qui sont des bonnes formes de culture, puis il y a des formes plus sauvages de culture qui sont pas nécessaires, en fait.
J'adore ta réflexion parce que j'ai de plus en plus l'impression qu'on se fait confisquer non seulement les lieux patrimoniaux, les lieux où on pourrait interagir, mais on se fait aussi confisquer le droit au désordre. Hein? Et qu'il faut pas qu'il y ait du désordre. Et je peux pas m'empêcher de penser, dans notre histoire, on avait les charivaris, on avait Mardi Gras, on avait des moments là où tout le monde pouvait se mélanger sans que ce soit dans le cadre d'un festival structuré. Hein. Et quand je pense au Carnaval de Québec, quelle tristesse! C'est le contraire du désordre, hein, c'est le contraire du carnaval. Hein. Il y a un espace pour chaque chose, un espace commandité pour chaque chose. Hein. C'est tellement compartimenté. C'est une espèce de ghettoisation du loisir et du plaisir. Alors on se fait confisquer le droit au désordre puis à tout ce qui peut en jaillir d'extraordinaire, hein, de l'imprévu, du mélange des gens et de l'improvisation un peu aussi. Hein. C'est une très belle référence. J'avais oublié cet épisode de la Saint-Jean-Baptiste.
C'est ça, donc aucune place effectivement pour les débordements, pour les imprévus, pour la spontanéité, pour des choses effectivement qui pourraient émerger de manière assez inattendue. On est encore et toujours dans une espèce de rapport consumériste à ces moments-là et à ces événements-là, et quelque chose de très muséal aussi, qui concerne finalement très peu la manière de vivre, finalement, ou d'entrer en relation.
Oui, et je suis de celles qui revendiquent le droit au terrain vague. J'aimerais que nos villes aient des lieux qui ne servent à rien et qui servent à tout le monde. mais bon, ça fait encore partie de la peur du désordre, hein, qui est le règne dominant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient naître de ces lieux qui ne serviraient à rien et qui servira à tous.
Il y a un cas vraiment intéressant et qui nous a beaucoup interpellé à l'émission, surtout la dernière saison, qui est justement le terrain vague à Montréal, donc dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui est un territoire finalement habité par les populations humaines et non humaines, bien sûr. Mais il y avait même des campements pendant un moment. C'est un territoire qui était à la fin finalement de ce qu'on peut considérer comme étant un cycle de valorisation d'usage et donc qui depuis 10-15 ans est dans l'état d'une friche arbustive en fait. Et donc toutes sortes d'espèces vivantes et de gens ont trouvé refuge dans ce lieu-là qui n'a aucune valeur aux yeux des logiques capitalistes, mais qui finalement devient le lieu où on peut habiter, passer des nuits ensemble à faire des feux. Il y avait même des raves sur le territoire, donc vraiment d'expérimenter collectivement un lieu dans la gratuité en fait, et on voit à quel point ça nous sort de la trame relationnelle de la ville, de ses logiques marchandes, de ses logiques de séparation. Donc c'est vraiment intéressant en fait que tu parles du terrain vague parce que ça
Ça oui, et puis, beaucoup. Bon, on ne peut pas être contre la vertu, mais je viens du Bic. Et quand j'étais ado, et je ne veux pas être nostalgique, mais il y avait cette clairière extraordinaire en plein cœur du village, là, sur le Mont-Saint-Louis, où on pouvait faire la fête, se retrouver. Et aujourd'hui, cette clairière, ben, c'est devenu un lieu très, très joli, bien entretenu, avec des jardins communautaires, des vergers publics. Et malgré tout ce que ça a pour me plaire, je m'ennuie de la clairière, je m'ennuie des terrains vagues, parce qu'à chaque fois, même la beauté, on l'organise un peu trop à mon goût. Vraiment, là, je trouve que c'est extraordinaire, ces jardins publics, mais c'est ça ne m'empêche pas d'avoir un pincement au cœur en pensant à cette clairière qui était en friche avant.
Oui, ça prend en fait les deux. c'est très bien les jardins communautaires, c'est très bien les terrains vagues, puis chaque terrain vague ne devrait pas nécessairement être pris comme l'espace où le jardin communautaire va avoir lieu. Puis c'est un peu un des enjeux qui s'est joué aussi sur le terrain vague dont Simon parlait, c'est qu'il y a l'enjeu du besoin de la création d'un parc dans cette partie de la ville qui n'est pas doté de parcs ou de grands espaces verts, mais en même temps, on sait que les parcs, c'est aussi des endroits où la police arrive à la fin de la soirée pour mettre les gens dehors, où c'est dur de dormir, où c'est dur de... Tu peux pas faire un feu dans un parc à Montréal, sauf si c'est un barbecue, évidemment. Mais donc, c'est quand même pas la même chose. C'est effectivement l'impossibilité d'une quelconque forme de désordre, en fait.
Oui, c'est ça.
Effectivement, peut-être qu'il y a dans... Puis là, je pense qu'on aimerait bien parler justement de la ZAD parce qu'on tourne autour avec l'idée des terrains vagues aussi puis des occupations qui peuvent en découler. Dans ton livre, la cabane occupe une place importante tant pour son caractère anecdotique que pour le retour aux sources qu'elle évoque. C'est un lieu, comme tu le dis, rempli d'histoires de rien, marqué par les usages répétés d'un mouvement quotidien et par la mémoire du temps. Tu soulignes aussi, dès les premiers chapitres de ton livre, l'absence d'occupation politique comme les squats ou les ZAD au Québec, en rappelant que, et là je te cite, « nos cabanes sont avant tout intérieures, confortables ». Que veux-tu dire donc quand tu dis qu'il importe aujourd'hui de trouver des lieux où pourrait s'épanouir, pour le plus grand nombre possible, quelque chose comme la vie bonne?
Oui, ben on a un rapport assez particulier avec la nostalgie. J'appelle ça la nostalgie sélective. Hein. Donc, ce rapport à la cabane, les gens ont tendance à décorer leurs intérieurs sur le mode du faux rondin de bois, les couvertures à carreaux. Mais si on revient, on l'a tous fait, je crois, l'expérience de la petite cabane à sucre dans le fond des bois, là, ou le camp familial, ou le shack, ou bon, la shed. Mais je me dis, il y a quelque chose là, en tout cas dans mon expérience de ces lieux-là, qui serait génial de réussir à réactiver, à garder vivant. Puis je veux pas être dans la nostalgie de pacotier. Je suis pas en train de dire que la cabane, c'est le bout du bout, puis que c'est la perfection. Mais je me dis juste, est-ce qu'on pourrait pas s'imaginer ensemble des lieux dignes qui seraient pas construits pour servir à quelque chose, tu sais, mais plutôt juste pour laisser s'épanouir nos relations, hein, notre vie collective, notre vie ensemble. Des lieux de mixité sociale, de mixité culturelle, générationnelle, c'est des grands mots, mais ça veut juste dire d'être ensemble, tu sais, peu importe l'âge, peu importe l'origine, et de pouvoir échanger, de pouvoir se raconter nos histoires, hein, parce que avant toute chose, les lieux, c'est pas des coquilles vides, hein, c'est des lieux traversés par nos histoires, nos espoirs, nos peurs, par celles aussi de ceux qui nous ont précédés. Donc c'est ça, je veux rien prescrire, je veux rien mythifier, mais je pense juste que on a essayé le trop, on a essayé le faux prestige, le luxueux, le faux exotique. Essayons donc le moins, le peu, l'ordinaire, le modeste, pour voir si ça laisserait pas justement plus d'espace pour nouer ensemble quelque chose comme c'est ça, une vie meilleure pour tous.
Donc, tu fais référence au livre de Marielle Massé, si je ne me trompe pas, « Nos cabanes », est-ce que c'est bien ça le...
Oui, tout à fait, un petit essai paru chez Verdier il y a quelques années, assez récent.
Tu prenais, entre autres, inspiration pour les cabanes que les gilets jaunes qu'on se faisait sur les ronds-points, si je me trompe pas, comme une de ces, une des possibilités des cabanes, qui est en fait un endroit, comme tu le dis, en fait, qui est une cabane qui sert à strictement parler à rien, où les gens font seulement se rassembler pour parler de des difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, en fait.
Absolument, c'est tout simple. Hein. C'est le contraire d'une recette. C'est le contraire de hein, juste avoir le droit, c'est ça, à des lieux imprévus, spontané, collectif, pris en charge par tout le monde et personnes à la fois. Faire confiance au désordre et à notre capacité de, ouais, de créer du beau dans ce désordre.
Mm-hmm. Et effectivement de naviguer dans ce désordre-là et dans cette incertitude-là que ça nous ouvre. Puis je pense que la question de la ZAD est intéressante parce qu'il y a vraiment une charge politique dans la ZAD, c'est-à-dire que c'est souvent, c'est tout le temps des mouvements qui naissent en opposition à des projets souvent industriels, agroalimentaires, etc., comme dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'était en opposition à un aéroport. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça pose aussi la question des mouvements sociaux et politiques parce que ils ont tendance, et on le voit souvent à travers, par exemple, des pétitions ou des mouvements qui veulent finalement, qui cherchent à jouer le jeu spectaculaire de la médiatisation et qui sont dans un mouvement qui est souvent très criard, en fait. Et donc, ce que la ZAD nous dit ou nous enseigne peut-être, c'est que c'est peut-être à travers un quotidien que devraient s'expérimenter ces luttes-là et non pas à travers, justement, l'espèce de spectacle médiatique, tu sais, qui nous oblige à jouer le jeu, en fait, et un peu à la manière de l'architecture qui ne trouve plus sa place, ben le mouvement citoyen, le collectif qui non plus ne trouve plus sa place. Je ne sais pas comment tu vois cette relation-là, justement, entre le mouvement collectif, sa manière d'entrer en lutte politique, puis justement, qu'est-ce que la ZAD a peut-être à nous apprendre?
Ben, c'est certain que j'ai l'impression que ces dernières années, hein, il y a eu une espèce de facilité un peu illusoire là, par les réseaux sociaux. Hein. Les gens ont l'impression qu'en signant une pétition sur Facebook, ils se sont impliqués. Ils peuvent retourner faire leur macaroni tranquille, mais ça suffira pas, là, ça suffira plus, je crois, ça. C'est sûr que la pandémie crée de la distance aussi là, pour des raisons, bien sûr, sanitaires, là, mais... J'ai l'impression qu'il va falloir se remettre ensemble les pieds dans la boue, puis sortir un peu, puis c'est ça, travailler épaule à épaule, investir l'espace public, être visible dans l'espace public et non pas seulement dans l'espace virtuel là, de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Là, à un moment donné, c'est ça, ça devient un peu trop facile de s'en tenir à ce genre d'implication. Puis je suis la première à me le reprocher aussi. Là, je veux dire, c'est pas si simple, mais c'est ça. En même temps, il y a quelque chose de grisant dans cet espoir de voir naître des lieux pour réfléchir ensemble à une vie meilleure.
Ben oui, puis il y a comme un... Je sais pas si TP, tu voulais y aller... en fait, je pense que la serre, encore une fois, en était une belle démonstration à Québec. Il y a eu une signature, je pense qu'il y avait 15 000 signataires, qui est quand même pas rien. Puis ça n'a pas pris de temps avant que le maire décide que ben non, on fait complètement fi en fait de ces revendications-là. On démolit la serre, puis voilà, vous êtes mis devant les faits accomplis. Alors qu'au moment où c'est démoli la serre, il y avait personne en fait pour la défendre. Il y avait personne qui était sur les lieux pour. Je veux dire, elle aurait très bien pu être occupée cette serre-là. On aurait très bien pu décider que collectivement, on la prend en fait, on rentre dedans puis on l'habite.
Ah oui, tout à fait. Puis quel moment de malaise, ces démolitions, hein, de voir personne ou à tout le moins une personne qui vient prendre en photo le sacrifice, là, mais toujours, on est toujours comme des inopportuns, on se sent comme des voyeurs, alors que culturellement, là, je veux dire, ça se voit partout ailleurs, prendre à bras le corps un espace, faire une chaîne humaine, puis dire ça suffit, vous ne passerez pas, comme dit l'autre dans le célèbre film.
Comment tu comprends ça, cette distance-là, en fait, qui semble être difficile à franchir entre un désir un peu abstrait de conserver des bâtiments et cette incapacité-là d'y aller, en fait,
Peut-être que c'est culturel, puis là, c'est là les limites, là, de j'ai pas des réponses à tout, mais bon, culturellement, on n'aime pas la chicane, on n'aime pas le désordre, hein, et c'est pas très long avant que, tu sais, dès qu'on hausse le ton, qu'on utilise le mot colère, hein, on se fait jeter des regards soupçonneux, hein, on n'aime pas ça, la chicane, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, pas faire de tapage... Et bien, c'est sûr qu'il y a des blessures vives aussi de 2012 là, pour toute la génération qui s'est ben, les générations qui se sont levées, parce que ça a été quand même un combat mené par plusieurs générations. Là. On n'était pas seuls les étudiants, mais ça a laissé des blessures physiques et psychologiques aussi, hein, cette espèce d'humiliation perpétuelle pendant la grève étudiante, là, des gens qui pourtant défendaient tout simplement le droit collectif à, ben, c'est ça, à une émancipation commune puis à l'accès aux études pour le plus grand nombre. Là. Donc, est-ce que c'est pas tout ça qui refroidit les gens de physiquement là, venir sur le terrain, peut-être?
Oui, puis on peut dire que c'est cette difficulté-là à se rejoindre est drôlement renforcée en ce moment par le contexte de la pandémie, dans le sens où on est confiné derrière nos écrans, on est là à avoir des échanges sur Zoom, il n'y a plus de relations interpersonnelles, c'est de plus en plus difficile d'avoir des moments collectifs où on parle de politique.
Tout à fait, et puis le couvre-feu aussi est un autre phénomène qui aura même très concrètement facilité des démolitions de bâtiments. Là. Si on ramène ça à la question seulement du patrimoine, là, le nombre d'incendies suspects pendant le couvre-feu est quand même assez intéressant. Là. Je parle notamment du manoir à Sainte-Marie-de-Beauce. En tout cas, tu sais... à l'heure où personne surveille puis plus personne est dehors, là, c'est ça. Puis tout ce que ça étouffe aussi comme possibilité encore de se rencontrer, de résister, de mettre en place des stratégies, des ruses pour se réapproprier nos villes. C'est vraiment pas simple.
Comploter également. Donc, effectivement,
ah oui,
avoir des moments de réflexion.
Il y en a pour tous les goûts.
Et donc, il y a peut-être effectivement, en guise de conclusion, un saut à faire dans le sens que peut-être qu'on ne peut plus espérer grand-chose en ce sens-là de nos politiques qui sont, ben, comme tu le notes vraiment bien dans ton livre, en fait assez déconnectées des réalités du lieu et qui, on le voit par tous les moyens, tentent de limiter les perspectives d'habiter ou disons de relation avec le territoire. Fait, est-ce qu'on revient justement, peut-être pour finir, aux communautés de se prendre en main puis de se briser un peu cette espérance-là que ça vienne d'en haut, puis que ça vienne des politiques, puis que... Est-ce qu'on est capable d'avoir justement ce désir-là qui vient de nous-mêmes?
Bien, en fait, il ne faut rien lâcher sur tous les fronts. Oui, la prise en main collective, oui, le fait que la colère, l'impatience, la résistance doit venir d'en bas, mais à côté de ça, il faut aussi continuer à marteler nos élus ont des responsabilités. Puis s'ils ne veulent pas en avoir, bien... qu'ils fassent autre chose, là. mais je pense qu'il faut que ça... C'est ça. Il faut rien lâcher, que ce soit sur le terrain, mais aussi en exigeant et en demandant à nos élus de rendre des comptes et qu'il y ait des conséquences aussi à leur immobilité.
Mm-hmm, effectivement. Et peut-être aux responsabilités dont ils décident auxquelles ils décident de répondre, hein, parce que, encore une fois, l'industrie est toujours très présente. Puis en ce moment, c'est ça, à Québec, nous, ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'ils appellent la techno-industrie. Donc, et la ville ouvre la porte à tous ces développements-là. Donc, ça fait partie des choix, en fait, qu'elle fait. Donc, effectivement, ils sont imputables, mais... C'est aussi aux communautés locales de réaliser que les intérêts qui sont servis ne sont pas les leurs.
Oui, tout à fait. Puis heureusement, on n'est pas seul. Puis,
effectivement.
C'est ça. Il faut faire réseau, il faut faire front commun. Il y a d'autres essais aussi qui sortent beaucoup cette année, hein, au sujet de la dénonciation de la laideur. Hein, je pense notamment à l'essai de Simon-Pierre Baudet. Mm-hmm. Ils mangent dans leur char là, au sujet du troisième lien, mais pas seulement que ça. Ils dénoncent beaucoup la laideur de nos villes aussi. Et cette espèce d'atrophie des possibilités de créer du lien social dans ces villes bétonisées, mur à mur.
Vraiment, et on est très content en fait d'avoir pu créer ce lien-là aujourd'hui. On espère pouvoir l'entretenir d'une quelconque manière à terme. Merci beaucoup, Marie-Hélène Voyer, pour ton temps. On peut lire ton ouvrage, donc L'habitude des ruines, Le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec. C'est disponible partout en librairie, c'est publié aux éditions Luxe. Est-ce qu'il y a un autre projet sur lequel tu travailles qu'on pourrait suivre, par exemple, une publication à venir? C'est sûr que là,
J'ai un deuxième recueil de poésie qui va paraître à la Peuplade au mois de mars, le 22 mars, si je ne me trompe pas. Et puis, des idées vagues de livres, des embryons qui commencent à se former, mais rien de sérieux pour le moment. Donc, deuxième recueil de poésie cet hiver, ça va suffire.
Oui, c'est ça. Bravo encore pour ton ouvrage. Merci beaucoup pour ton temps. On en profite également pour inviter les auditeurs et auditrices demain à un rassemblement contre la hausse des loyers. Donc, le 19 janvier à 9h, c'est au garage municipal dans Méseret que ça se passe. Donc, au 1252 Chemin de la Canardière, soyez-y nombreux. Il va y avoir beaucoup d'organismes de Québec rassemblés contre, effectivement, ce qui est actuellement... qui exacerbe la crise du logement et aussi tous les enjeux dont on vient de discuter. Donc, l'émission sera rediffusée vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Il est également possible d'écouter les épisodes en balado via le www.contrepointmedia ou anchor.fm. Merci encore Marie-Hélène, merci TP, merci Mickaël en studio. On vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine.
Merci de votre accueil.
Merci à tout le monde. Bonne fin de journée.
Salut.
Thank you.